Lutte de classe numéro 134 de mars 2011. La vague de contestation dans les pays arabes. 23 février 2011. L'incendie des révoltes populaires est en train d'embraser une bonne partie du monde arabe. Cet arc de cercle au sud et à l'est de la Méditerranée, délimité par le Maroc d'un côté et par le Yémen et Oman de l'autre. Il a déjà entraîné la chute de Ben Ali, dictateur de la Tunisie pendant 23 ans, et celle de Moubarak, dictateur de l'Égypte pendant 30 ans. La contestation des régimes en place ébranle avec plus ou moins d'ampleur l'Algérie, la Jordanie, le Yémen, le minuscule État de Bahreïn, la Mauritanie, Djibouti et la Libye. Elle a pris, dans ce dernier pays, un tour particulièrement violent avec la répression sanglante de Kadhafi. Au moment où nous écrivons, la situation en Libye tourne à la guerre civile dont il serait hasardeux de prédire l'issue. Mais même là où les régimes se sont résolus à des concessions, il y a des morts qui cependant n'arrêtent pas la poursuite du mouvement. La contagion joue certainement entre pays de même langue et de culture partagée, mais joue plus encore le fait que, entre les pays touchés par la révolte, au-delà de leur diversité, il y a une grande similitude et de leur structure sociale et de leur situation politique. Des dictatures reposant sur l'armée, des régimes policiers rongés par la corruption, absence des libertés et des droits démocratiques élémentaires. Toutes ces dictatures reposent sur le socle d'une économie sous-développée, dépendant de l'extérieur, c'est-à-dire soumise à l'impérialisme et à des structures sociales caractérisées par des inégalités sociales criantes entre la classe privilégiée et les classes maintenues dans la misère. La variété des richesses naturelles, comme le pétrole, ou créés par l'homme comme le canal de Suez, assure ou pas aux dirigeants de l'État une rente suffisante pour lâcher éventuellement du lest. Mais toutes ne disposent pas de cette marge, et même les pays qui en disposent ne sont pas dans la même situation lorsqu'il s'agit d'un pays peuplé de plus de 80 millions d'habitants comme l'Égypte, ou lorsqu'il s'agit d'émirats d'opérettes découpés au gré des rivalités entre trusts pétroliers. Mais certains de ces riches émirats mis à part, Disneyland pour touristes, où d'ailleurs le monde du travail est composé de travailleurs immigrés aux conditions de semi-esclavage, les structures sociales sont similaires et les États, policiers, imposent les inégalités à coups de trique et le cas échéant de mitraille. Rien qu'en assumant cette fonction, et quelle que soit par ailleurs leur politique extérieure, ces États servent l'ordre impérialiste mondial. Ils servent de chien de garde aux grands groupes des pays impérialistes qui dominent l'économie, qu'ils soient directement présents ou qu'ils prélèvent leur part dans les échanges internationaux. Même la Libye de Kadhafi, qui pendant quelques années a joué sur la démagogie anti-impérialiste, n'a jamais dérogé à ce rôle fondamental par rapport à ceux de ses semblables qui sont ouvertement liés aux grandes puissances impérialistes. Le dictateur libyen n'a pas eu de mal à rentrer dans le rang. L'État français s'est distingué, comme bien souvent, par une façon particulièrement dégoûtante de sceller l'amitié retrouvée du dictateur qui massacre aujourd'hui son peuple avec des armes vendues par les entre guillemets « grande démocratie » d'Occident. La partie orientale de l'ensemble, le Proche-Orient, est une région hautement surveillée par les puissances impérialistes, tant en raison de ses ressources en pétrole qu'en raison de son emplacement géostratégique. Dans la plupart de ces pays, la dépendance du régime à l'égard de l'impérialisme se concrétise de manière particulièrement visible par le fait que leur armée, dont les cadres supérieurs ont été formés à Saint-Cyr en France ou dans d'autres écoles militaires en Angleterre ou aux États-Unis, a des liens étroits avec l'armée de ces puissances. Les racines profondes de la montée de la révolte dans les pays arabes sont là, dans la grande misère des masses exploitées, des ouvriers au salaire dérisoire. Les salaires sont, en Égypte, 4 fois inférieurs à ceux de Turquie, incitant les entreprises de ce pays, avec capitaux occidentaux en général, à délocaliser sur les bords du Nil. Des paysans misérables, une petite bourgeoisie intellectuelle dont une bonne partie, même bardée de diplômes, ne trouve pas de travail, cette catégorie de entre guillemets chômeurs diplômés semble jouer d'ailleurs un rôle important dans la révolte, à commencer par l'homme devenu le symbole de la révolte en Tunisie, le jeune diplômé Mohamed Bouazizi, vivotant comme marchand de 4 saisons, qui, en s'immolant par le feu à la suite de la dernière des 1001 humiliations venant des policiers, a donné le signal. Et là-dessus intervient la crise de l'économie capitaliste. Ses conséquences sont déjà catastrophiques pour les classes exploitées des pays impérialistes. Mais la hausse du prix de n'importe quel produit alimentaire dans les pays où une partie de la population vit d'ordinaire à la limite de la survie peut la faire basculer vers la famine. Les inconvénients du système pour la bourgeoisie. Ce système, constitué de régimes militaires plus ou moins déguisés, n'a cependant pas que des avantages pour la bourgeoisie, ni même pour l'impérialisme. Lorsque l'armée exerce un pouvoir sans partage depuis 50 ans, comme dans le cas de l'Égypte, elle a une tendance naturelle à accroître aussi sa puissance économique. La hiérarchie militaire égyptienne occupe une place considérable dans l'économie, contrôle directement des secteurs entiers, non seulement dans le domaine de l'armement et de la technologie militaire, mais aussi dans les domaines aussi variés que l'agroalimentaire, l'industrie plastique, le BTP, la construction de logements, le tourisme, etc. Entre parenthèses, une bonne partie des établissements de la zone touristique de Sharm el-Cheikh appartient, paraît-il, au clan Moubarak. Et même dans les secteurs où ce n'est pas le cas, l'accès de la bourgeoisie locale à la mangeoire est subordonné à ses relations avec le pouvoir politique. En outre, le dictateur lui-même, surtout lorsqu'il reste au gouvernail pendant des décennies, a une tendance toute naturelle aussi à favoriser sa famille et ses alliés. Le clan au pouvoir empiète sur le pouvoir économique de la bourgeoisie elle-même. Les dernières années du pouvoir de Ben Ali fourmillent d'histoires où son clan, en particulier la famille Trabelsi, du nom de sa femme, a écarté des membres de la bourgeoisie des affaires les plus juteuses. La défense de l'ordre bourgeois aboutit à un pouvoir mafieux dont la bourgeoisie finit par payer le prix. Il ne s'agit pas seulement de bourgeois locaux, même le puissant trust Nestlé, si bien servi par la dictature de Ben Ali, qui préservait les salaires bas des travailleurs tunisiens, a été obligé de faire cadeau à la famille Trabelsi d'un paquet d'actions de ses filiales locales. Non seulement nourrir le chien de garde coûte cher, mais de surcroît, il se permet de mordre les mollets de ses maîtres. En Égypte, on crédite la famille Moubarak d'une fortune entre 40 et 70 milliards de dollars, du même ordre donc que celle de dynasties bourgeoises parmi les plus anciennes et les plus riches du monde. Cette fortune faramineuse vient des caisses de l'État, de la rente du canal de Suez et de bien d'autres sources du même acabit. Et c'est autant qui n'est pas empoché par la bourgeoisie. Comme l'explique dans Le Monde, Lassen Hachi, économiste à l'Institut Carnegie du Moyen-Orient, à Beyrouth, qui, en bon théoricien libéral de la bourgeoisie d'affaires, inscrit au passif des dictatures du Moyen-Orient le fait que les entre guillemets simples citoyens, sikhs, désireux d'investir, sont écartés par l'armée ou obligés de collaborer, c'est-à-dire de partager avec elle, ouvrez les guillemets, on a ainsi créé une économie de marché de façade, fermez les guillemets, et de continuer ses récriminations. Entre parenthèses, voir le dossier de l'économie du monde du 8 février 2011. Ouvrez les guillemets. La privatisation des entreprises s'est faite au profit de personnalités du pouvoir qui ont obtenu des monopoles ou quasi-monopoles, un accès privilégié au marché public, voire un cumul de positions économiques et politiques qui leur permettent d'orienter les décisions économiques ou fiscales au bénéfice de leurs seules entreprises. Fermez les guillemets. Et de constater amer que, ouvrez les guillemets, dans ces conditions, un simple citoyen qui veut investir ou entreprendre doit affronter l'absence d'accès au crédit, la corruption et l'inefficacité de l'administration, la position dominante des entreprises en place, la brutalité de la justice, la difficulté d'accéder aux aides de l'État. Fermez les guillemets. Et oui, dans un tout autre contexte, il est vrai, dans un riche pays impérialiste, l'Allemagne sous Hitler, le rejetant d'une vieille dynastie bourgeoise devait maugréer lorsqu'il était obligé d'inviter à sa table le garçon boucher devenu général des SS. À plus forte raison s'il devait lui rendre des comptes. Mais la bourgeoisie allemande n'avait alors pas le choix. Elle avait besoin de ce régime pour préserver sa domination de classe. Il n'en allait pas tout à fait de même de la Tunisie de Ben Ali et de l'Égypte de Moubarak. Les rapports de la bourgeoisie avec les dirigeants de l'État qui défend ses intérêts ne sont pas les mêmes dans un pays impérialiste comme l'Allemagne, avec une bourgeoisie riche et puissante, que dans un pays sous-développé, avec sa bourgeoisie tout aussi avide que la précédente, mais sans la même assise dans la société. L'omniprésence du clan du dictateur et ses prélèvements grevaient cependant le plaisir des investisseurs de trouver dans ces pays des travailleurs corvéables à merci pour des salaires misérables. Dans une interview télévisée, Madame Parisot, présidente du MEDEF, poussait, après le départ du dicteur Ben Ali, un soupir de soulagement en observant que ces temps derniers, il devenait décidément de plus en plus difficile de faire des affaires en Tunisie. Avis partagé par Christophe de Margerie, hautement concerné par tout ce qui se passe au Moyen-Orient, étant le PDG du groupe pétrolier Total. Ouvrez les guillemets. Le départ du président Ben Ali est plutôt une bonne chose. Fermez les guillemets. Et d'ajouter, voir le journal du dimanche du 13 février 2011, à propos de la Tunisie et de l'Égypte, que, ouvrez les guillemets, la chute de ces régimes ne nous déstabilise pas. Il ne faut pas prendre les patrons pour des brutes qui préfèrent travailler avec des dictateurs. Fermez les guillemets. Certes, certes, ces grands trusts se contentent de se comporter en brutes seulement lorsque leurs intérêts sont directement et immédiatement menacés, comme le pensait, à tort ou à raison, le trust de la banane United Fruit au Guatemala d'Arbenz, ceux du pétrole dans l'Iran de Mossadegh, ceux du cuivre au Chili d'Allende et bien d'autres en ce bas monde où il ne faut pas chercher loin pour trouver, derrière un coup d'État contre un régime parlementaire, la main de la CIA américaine et l'argent des multinationales. Le visage parlementaire de l'impérialisme. L'impérialisme lui-même, en particulier son chef de file, les États-Unis, qui a été si souvent à l'origine de putsch militaires et dont les services secrets ont tant protégé de dictatures, a fait au fil des ans l'expérience que des régimes plus ou moins parlementaires pouvaient faire aussi bien l'affaire. Boutros Boutros-Ghali, ex-secrétaire général de l'ONU, ex-ministre de Moubarak, et par ailleurs défenseur de son régime jusqu'au dernier moment, a déclaré, lorsque les premières manifestations se sont produites au Caire, que la seule chose qu'il reprochait à Moubarak, dont il était un des partisans, c'est qu'il avait trop trafiqué les élections législatives précédentes, ne laissant aucune place à l'opposition. Il ajoutait, en substance, « Cela aurait permis que le mécontentement s'exprime au Parlement plutôt que dans la rue. » Ce vieux laquais de l'impérialisme a peut-être tort en attribuant trop de vertus au parlementarisme façon pays pauvre, car les émeutes auraient peut-être éclaté de toute façon. Car, parmi les motifs de la révolte contre Ben Ali, il n'y avait pas que l'absence de liberté, mais aussi le chômage et la cherté de la vie. Des révoltes, il y en a eu d'innombrables en Inde, dans ce pays que la bourgeoisie appelle affectueusement, ouvrez les guillemets, la plus grande démocratie du monde, fermez les guillemets. Mais il y a tout de même une part de vérité dans son constat. En tout cas, après une longue période où l'impérialisme, américain comme français ou autre, ne tolérait aucun régime, même vaguement parlementaire, dans les pays sous sa domination économique directe, son attitude s'est assouplie. Au temps où le mouvement ouvrier était ou pouvait devenir menaçant, il n'était pas question pour la bourgeoisie de lui laisser la tribune que pouvait représenter un parlement, même bidon. Cela fait belle lurette, cependant, que la menace du mouvement ouvrier révolutionnaire s'est éloignée. Lui a succédé, au temps de l'Union soviétique et de la guerre froide, le risque que des élections modérément truquées conduisent à l'arrivée au pouvoir d'un régime pro-soviétique. Pendant les années 60, devant ce risque, renforcé par la menace de contagion à partir de Cuba, les États-Unis ont été parmi les premiers à imposer des dictatures partout en Amérique latine. L'impérialisme français en a fait autant dans sa sphère d'influence constituée par ses ex-colonies d'Afrique. De la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny au Centrafrique de feu l'empereur Bokassa Ier, en passant par bien d'autres, les années 60 ont été des années de dictature pure et dure, en Afrique comme un peu partout dans la partie sous-développée du monde. Et même en Europe, faut-il rappeler Franco et Salazar, survivants, il est vrai, d'une autre époque, mais auxquels étaient venus s'ajouter en 1967 les colonels grecs. Avant même la dislocation de l'Union soviétique, la mode était venue de ces caricatures de démocratie qu'est le multipartisme. Les pays d'Afrique, pour ce qui les concerne, en étaient venus, dans les années 80, à cette forme de parlementarisme qui laissait à une mince couche privilégiée la possibilité de faire joujou avec les élections, en général truquées, certes, et pas toujours acceptées par les vaincus, mais élections quand même. Les masses exploitées n'en avaient pas pour autant plus de liberté et de droits démocratiques. Elles restaient soumises à l'arbitraire des policiers ou des militaires, rançonnées, terrorisées, mais au moins ce qu'on a appelé les élites de ces pays étaient autorisées à rivaliser pour les postes et les positions. Cette évolution des régimes des pays africains a laissé de côté le Maghreb. Le Maroc a continué à être dominé par, entre guillemets, notre ami le roi, puis par son fils. En Tunisie, le vieux dictateur Bourguiba a été mis sur la touche par son ministre de l'Intérieur Ben Ali. Et en Égypte, Moubarak relayait Sadat, non pas grâce à des élections même truquées, mais grâce au choix de l'état-major. Le choix stratégique des grandes puissances en faveur de régimes plus ou moins parlementaires, en tout cas multipartistes, n'allait cependant pas jusqu'à mettre à la porte des despotes qui servaient si bien leurs intérêts. Tout au plus s'en débarrassait-elle lorsque le pouvoir de ceux-ci tournait à la kleptomanie ou à la mégalomanie furieuse, comme dans le cas de Mobutu ou de Bokassa. Certains dictateurs devenait décidément trop encombrant. L'actualité montre cependant très bien que, dans le cas de la Tunisie, l'impérialisme français se satisfaisait parfaitement du régime de Ben Ali, malgré ses aspects mafieux. Les capitaux français continuaient à chercher les bonnes affaires en Tunisie. les surprofits faits grâce au bas salaire des travailleurs permettaient de distribuer des prébendes aux dirigeants de l'État. Les ministres et autres serviteurs politiques de la bourgeoisie et leurs familles se faisaient un plaisir d'accepter les petites gâteries du dictateur en place. Même chose en Égypte. Si Obama s'émerveille aujourd'hui de la transition démocratique, oh, fort relative car incarnée par un maréchal, Moubarak a été soutenu, financé par les États-Unis pendant 30 ans et n'a été sacrifié que lorsque cela a été nécessaire pour tenter d'apaiser la révolte contre lui. Si l'assouplissement de la politique de l'impérialisme ne va pas jusqu'à se débarrasser d'un dictateur qui sert bien, la transition vers le parlementarisme est cependant tolérée lorsque cela permet de changer la tête pour ne pas changer le reste. Qu'il soit dit ici que ce changement prétendument démocratique non seulement ne change rien aux inégalités sociales criantes, au pouvoir économique de la classe privilégiée locale et derrière elle de l'impérialisme sur le dos d'une population maintenue dans la pauvreté, mais ne change pas grand-chose non plus à la dictature. Car la dictature, c'est-à-dire l'oppression par l'appareil d'État, par la police, par l'armée, par l'administration d'État, ne découle pas seulement du monopole du pouvoir au sommet par un seul homme. Dans le domaine de l'oppression des plus pauvres, des exploités, le régime parlementaire de l'Inde n'a rien à envier au pire des dictatures. Quand bien même il y a dans ce pays un parlement élu qui, contrairement au Pakistan voisin, n'a jamais été interrompu ni même vraiment menacé par un coup d'État militaire, la stabilité dans une société indienne profondément inégalitaire vient aussi de l'intégration dans le système parlementaire moderne d'anachronismes hérités d'un passé parfois lointain, principalement les castes. Que signifie par exemple l'admission dans le Parlement de New Delhi de quelques individus appartenant aux castes dites inférieures, voire à celles des intouchables, entre guillemets, lorsque le système de caste d'une inégalité codifiée, protégée par la religion, pèse à tous les niveaux de la société. L'impérialisme a toujours su intégrer et associer au maintien de l'ordre social des structures sociales surannées. Le caractère factice du parlementarisme en Côte d'Ivoire ne se limite pas aux tricheries électorales et est illustré par l'épisode actuel de l'opposition Ouattara-Gbagbo. Ce parlementarisme s'est toujours accommodé des chefferies de rois, de la noblesse, des micro-régions, toute une panoplie d'autorités traditionnelles naguère sorties de la naphtaline par le pouvoir colonial et maintenue dans la Côte d'Ivoire indépendante. La démocratie des riches pays impérialistes repose en grande partie sur la destruction des formes sociales anachroniques par une bourgeoisie à l'époque révolutionnaire. Encore que, même là, même dans ces démocraties modernes, restent des vestiges ridicules, comme en témoigne en Grande-Bretagne l'institution royale avec ses palais, ses carrosses, ses mariages princiers. Mais si, en Angleterre, c'est plus comique que tragique, encore que même là, l'institution monarchique a un coup, la démocratie de ces pays impérialistes repose surtout sur leur richesse. Par là, pour reprendre une expression de Trotsky, la démocratie bourgeoise en Grande-Bretagne s'est maintenue et s'est consolidée par le pillage de son immense empire colonial. On peut en dire autant de la France. Quant aux États-Unis, leur démocratie s'enracine dans le pillage du monde entier, à commencer par l'Amérique latine. Tant que, dans les pays sous-développés, les pauvres représentent des masses immenses, il n'y a pas de place pour une véritable démocratie. Même en Chine, qui a su, grâce à la révolution paysanne de 1948 sous l'égide de Mao, se débarrasser des expressions les plus anachroniques des inégalités sociales d'antan, on voit aujourd'hui comment s'aggrave, avec le capitalisme débridé et la pauvreté, les inégalités sociales, et dans le même mouvement, l'oppression pour, entre guillemets, tenir les pauvres. Et le véritable problème, même en Chine, n'est pas seulement le monopole du parti unique au sommet, la dictature de l'État central, mais aussi l'arbitraire, la toute-puissance des féodalités locales. Que cela passe par les canaux d'un parti qui s'intitule, entre guillemets, communiste, n'y change rien. La portée des mouvements de contestation. Les mouvements de contestation dans le monde arabe constituent incontestablement un fait politique important, susceptible de modifier la physionomie politique des pays concernés. C'est l'intervention d'une fraction de la population qui est en train de modifier la donne. Pour en saisir cependant la dynamique, il est important de comprendre quelles sont les forces sociales qui y participent, quels sont les intérêts des unes et des autres et quelles sont leurs relations réciproques. Derrière l'expression entre guillemets « transition démocratique » se retrouvent les aspirations confuses de larges masses exploitées à plus de liberté et à plus de droits, à commencer par celui de manger à sa faim, mais aussi la volonté de changement de la bourgeoisie elle-même. Ouvrez les guillemets, ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Fermez les guillemets. Personne ne peut prévoir le développement du mouvement de contestation qui parcourt les pays arabes, ni même s'il y aura un développement. Il serait d'un pessimisme stupide de lui fixer par avance des limites en affirmant qu'il ne pourra rien faire d'autre que fournir de l'énergie pour, entre guillemets, dégager quelques dictateurs vieillissants qui, de toute façon, l'âge aurait écarté à brève échéance et donné l'occasion aux grandes puissances impérialistes de repeindre ces dictatures aux couleurs roses du parlementarisme. Il est tout aussi stupide de baptiser pompeusement ce qui se déroule dans les pays arabes du nom de, entre guillemets, révolution. Le mouvement le deviendra peut-être, car les masses apprennent dans le mouvement, dans la confrontation des classes sociales, et ne peuvent apprendre que de cette manière-là. Alors, tant que mouvement il y a, espoir il y a. Que l'on se rappelle seulement que la classe ouvrière de Russie, sur qui pesait toute l'étard d'une société féodale et l'oppression du tsarisme, était entrée dans la révolution en janvier 1905 en chantant des cantiques derrière un pop avec le seul désir de faire parvenir au tsar, ouvrez les guillemets, ses respectueuses doléances, fermez les guillemets. Elle avait fini écrasée, certes, par une force armée supérieure, mais, entre-temps, elle avait appris à s'armer, à faire trembler une monarchie vieille de plusieurs siècles, et surtout à inventer les conseils ouvriers, ces, entre guillemets, soviets, qui préfigureraient pour toute une époque historique ce que peut être l'organe d'un pouvoir ouvrier. Elle avait ainsi pu entrer dans la révolution de 1917 en retrouvant, dès le début, et la capacité de s'armer et la volonté de s'adresser aux soldats du rang pour les dresser contre la hiérarchie militaire. Et surtout, elle avait recréé tout naturellement les soviets. Pour passer de février à octobre 1917, c'est-à-dire à la prise du pouvoir consciente par le prolétariat, il avait fallu un parti, le parti bolchevique. Sans ce parti, octobre 1917 n'aurait certes pas pu avoir lieu. Mais le parti bolchevique n'aurait pas pu faire grand-chose en 1917 sans cet apprentissage collectif fait par l'ensemble des exploités en 1905 et en février 1917. Plusieurs des pays arabes ont eu, dans le passé, plus ou moins éloigné, la riche expérience d'un mouvement ouvrier combatif. La classe ouvrière a fait irruption sur la scène politique dans les années 30 en Palestine, en Irak. Elle y est revenue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en Égypte, jusqu'aux années 50 et à la prise du pouvoir par Nasser. Le mouvement, se réclamant du communisme, était puissant en Irak et au Soudan. Mais le mouvement ouvrier organisé était déjà dominé à l'échelle du monde par le stalinisme, une bien mauvaise école pour une classe ouvrière qui cherchait son chemin. Les milliers de militants ouvriers politisés qui surgissaient alors étaient non seulement soumis à la répression, notamment des grandes puissances anglaises et françaises qui dominaient à l'époque le Maghreb et le Proche-Orient, mais aussi pervertis par le stalinisme. Ce dernier, en étouffant la voie communiste révolutionnaire, frayait le chemin à la génération de jeunes officiers qui, de Nasser en Égypte à Qassem en Irak, en passant par différents officiers en Syrie, incarnaient un, entre guillemets, nationalisme progressiste, c'est-à-dire des dictatures plus ou moins paternalistes au début, de moins en moins par la suite, et débouchant sur le pouvoir de l'armée. La montée islamiste a fini par achever l'évolution. Le prolétariat des pays arabes est cependant bien plus nombreux et bien plus jeune qu'entre les deux guerres ou après la Deuxième Guerre mondiale. Il a tout à apprendre, mais il peut tout apprendre, surtout si au sein de la jeunesse intellectuelle de ces pays, bardés de diplômes peut-être, mais laissés au chômage, se trouvent des éléments qui soient capables de renouer avec les traditions du communisme révolutionnaire. Si la contestation actuelle conquiert quelques libertés et les consolide un tant soit peu, il faudra que cette génération s'en saisisse pour renouer avec ce passé communiste révolutionnaire, fût-ce dans les livres, pour se cultiver et pour transmettre ses idées à la classe prolétarienne. Si cela se fait, tous les espoirs sont permis pour l'avenir d'une véritable, entre guillemets, révolution arabe, c'est-à-dire la révolution des prolétaires et des exploités de ces pays.